Chapitre 16. Dans son grand cabinet aux meubles sévères, Philippe était en train de travailler. Son bureau était couvert de papier sur lequel il jetait rapidement un coup d'œil. D'un trait de plume, il apposait une signature sur la pièce examinée et actif, sans une distraction, il passait à une autre. Il était 10 heures. Le soleil brûlant tombait d'aplomb sur la façade du château. Un rayon indiscret, en venant se poser sur le front du maître de forge, interrompit son travail. Il se leva et, allant à la fenêtre, il laissa un instant ses yeux errer sur le jardin. Au bord de la pièce d'eau, abritée sous une tente de coutil rayé, Suzanne, vêtue d'une robe blanche, pêchait distraitement. Sa ligne plongeait dans le bassin et son flotteur, agile par les tiraillements d'un poisson qui avait saisi l'hameçon, danser faisant onduler l'eau en cercle brillant. La jeune fille, les yeux perdus dans l'espace, semblait suivre avec satisfaction une pensée heureuse. Elle restait immobile, le visage radieux, perdu dans son rêve. Un sourire passa sur les lèvres de Philippe. Il ouvrit doucement sa fenêtre et, s'adressant à la jeune fille, « Suzanne, dit-il, tu sais que ça mord. » L'enfant tressaillit et, se tournant vers son frère avec une gracieuse moue, « Oh, Philippe, dit-elle, tu m'as fait peur. »« Tire donc ta ligne, dit le maître de forge. Il y a 10 minutes qu'une perche se débat au bout. Ce n'est pas bien de faire souffrir ainsi les bêtes. » Instinctivement, Suzanne amena le mince roseau dont le sillon pliant fit jaillir hors de l'eau le poisson comme un éclair d'argent. La jeune fille, de sa main gantée, décrocha la perche et la fit tomber dans une poche en filet qui baignait près de la rive sous les herbes. « J'en ai 12 !» s'écria fièrement Suzanne en montrant à son frère le filet rebondi. « Ça fera une friture !» dit gaiement le maître de forge. « C'est égal, elles y mettent de la bonne volonté. » Il regarda un instant sa petite sœur qui, gravement, embrochait un verre rouge avec son hameçon. Sous le ciel bleu, dans la pénombre de la tente, elle apparaissait si rose, si fraîche, qu'un attendrissement subit s'empara de son frère. Un soupir gonfla sa poitrine. Il envoya l'enfant adoré un silencieux baiser. Et, laissant tomber le store qui devait le garantir du soleil, il referma sa fenêtre. Le cabinet se trouva plongé dans une demi-obscurité fraîche. Derblay, revenant à son bureau, allait s'asseoir quand un coup discrètement frappé à la porte l'arrêta. « Entrez » fit-il avec indifférence. La porte s'ouvrit et Claire, rougissante, très émue mais décidée, parut sur le seuil. « Je ne vous dérange pas ? » demanda-t-elle en s'approchant, pendant que Philippe, très surpris de cette demande inattendue, lui avançait courtoisement un fauteuil. « Pas le moins du monde, » répondit-il simplement, et s'adossant à la cheminée, il attendit. Claire, assise, la tête un peu renversée sur le dossier de son siège, regarda un instant autour d'elle. Elle n'entrait jamais dans cette pièce qui était tout à fait personnelle à Philippe. Sa gravité un peu roide, qui était comme un reflet du caractère de celui qui l'habitait, lui plut. Elle examina chaque objet avec complaisance. En réalité, elle n'était pas fâchée de retarder le moment où il faudrait parler. Le cœur lui battait très fort et elle avait les tempes serrées. Philippe, debout sur ses gardes, l'observait. Ce fut lui qui, le premier, rompit le silence. « Est-ce que vous avez quelque chose à me demander ? » dit-il. Claire tourna ses yeux vers son mari et, avec une nuance de tristesse dans la voix, « Nous vivons si éloignés l'un de l'autre qu'il faut que j'aie en effet une demande à vous adresser pour que je me risque à vous déranger. » Philippe fit un geste de dénégation poli et, s'inclinant devant sa femme comme pour l'encourager, « Je vous écoute. » La jeune femme pencha le front comme si elle voulait se recueillir. Elle tremblait et sa bouche était sèche. Jamais partie plus grave ne fut engagée avec plus d'angoisse. « Ce dont j'ai à vous entretenir, dit-elle, est des plus importants et vous intéresse au moins autant que moi. »« Voyons. » Claire jeta à son mari un regard si chargé de muettes prières que celui-ci eût dû tomber à genoux. Il resta circonspect, attendant. « Avant tout, reprit la jeune femme, dites-moi, vous portez quelque intérêt à Octave, n'est-ce pas ?»« Mais je ne crois pas, dit le maître de forge un peu étonné, que votre frère ait eu jusqu'ici le droit d'en douter. » La réponse était ambiguë. Claire fronça légèrement le sourcil. cet intérêt si vous aviez occasion de le lui prouver. Il est probable que je la saisirai. » C'était à ce point précis que Claire avait voulu amener son mari en lui tendant le piège de ses questions. Il n'y avait plus qu'à indiquer le but de cet entretien. Emportée par la fièvre de la lutte commencée, la jeune femme n'hésita plus. « Eh bien, dit-elle, cette occasion vient de se présenter. Désirez-vous la connaître ? Je dois vous dire qu'elle est sérieuse et qu'en cette circonstance, il ne s'agit pas que de mon frère. » « Que de détours ! » interrompit le maître de forge. « Ce que vous avez à me demander vous paraît-il si difficile à obtenir ?» Claire regarda son mari bien en face, comme si elle avait voulu ne pas perdre un mouvement de sa physionomie, puis, hardiment, « Jugez-en, dit-elle, Octave aime votre sœur et m'a chargée de vous la demander pour lui. » Philippe laissa échapper une sourde exclamation. Son visage était devenu sombre. Pour dissimuler son trouble, il fit quelques pas vers la fenêtre, devant laquelle il resta silencieux, soulevant de la main le store léger. Au bord de la pièce d'eau, Suzanne, inconsciente de ce qui se passait, continuait à rêver, laissant sa ligne baignée dans l'eau miroitante. Le maître de forge regarda cet enfant candide et douce. Elle était faite pour le bonheur. Claire, dévorée par l'anxiété, marcha au-devant de son mari, et le voyant pensif et absorbé, « Vous ne répondez pas ? » dit-elle. Philippe se retourna et parlant lentement, comme si ce qu'il avait à dire lui coûtait, « Je suis désolé pour votre frère, mais ce mariage est impossible. »« Vous refusez ? » s'écria Claire en proie à un trouble horrible. « Je refuse, » répéta le maître de forge froidement. « Pourquoi ?» Philippe regarda fixement sa femme, comme s'il eût voulu lui faire entrer sa réponse jusqu'au fond du cœur. « Parce qu'il y a déjà, dit-il, une personne malheureuse dans ma famille, du fait de la vôtre, et que je trouve que c'est assez. »« Prenez garde, reprit vivement Claire, de faire plus sûrement le malheur de Suzanne en la refusant à mon frère. »« Comment cela ? » dit le maître de forge avec une soudaine animation. « Elle l'aime !» Dans le jardin, la voix joyeuse de Suzanne, rangeant, aidée de Brigitte, tout son attirail de pêche, se faisait entendre. Philippe s'arrêta un instant à l'écouter. « Elle l'aime, répéta-t-il, c'est en effet un grand malheur. Mais ma décision n'en sera pas changée. Si, la veille du jour où je devais vous épouser, quelqu'un m'en avait empêché, quitte à me briser le cœur, il m'aurait rendu un immense service. » La cruelle expérience que j'ai faite, au moins, aura servi à quelque chose. Si ma sœur doit pleurer, elle pleurera libre et elle ne verra pas, comme moi, devant elle, un avenir irrémédiablement perdu. » Claire fut si rudement atteinte qu'elle ne put conserver son sang-froid. « C'est une revanche que vous cherchez !» dit-elle avec violence. « Une revanche ?» fit le maître de forge avec hauteur. « Croyez-vous qu'il me convienne d'en accepter une ? Non ? C'est une précaution que je prends et tout me la conseille. » Claire se laissa tomber sur son fauteuil. Elle sentit dans les paroles de son mari un tel dédain et une telle résolution qu'elle renonça à combattre. Elle ne songea plus qu'à supplier. « Voyons, dit-elle, je vous en prie, ne me rendez pas responsable du malheur de ces enfants. Je suis bien assez accablée moi-même. Que faut-il que je fasse pour vous fléchir ? « J'ai eu envers vous des torts graves, je le sais. » Philippe se mit à rire amèrement. « Vous avez eu des torts graves envers moi, dit-il, en vérité, et vous daignez l'avouer. Mais voilà, il me semble, de grandes concessions que vous me faites. » Claire ne releva pas les paroles ironiques de son mari. Elle était décidée à ne se laisser rebuter par rien et à aller jusqu'au bout. « Oui, je vous ai fait bien du mal, reprit-elle, mais vous me le faites durement expier. »« Moi ? » interrompit Philippe. « Et comment ? Vous ai-je adressé un reproche ? Vous ai-je jamais dit une parole blessante ? Ai-je manqué d'égard envers vous ? » ?»« Non, mais combien j'aurais préféré votre colère à cette indifférence hautaine avec laquelle vous me traitez. Autour de moi, j'entends tout le monde vanter mon bonheur. Partout où je vais, on m'envie, on me fête. » Je rentre dans notre maison. Où est-il, mon bonheur ? Je le cherche et je ne trouve que la solitude, l'abandon, la tristesse. » Philippe redressa sa haute taille et, dominant la pauvre femme qu'il sentait si complètement tombée en son pouvoir, « Il n'a pas dépendu de moi, dit-il, qu'il en fût autrement. Vous avez vous-même décidé de votre vie. Elle est telle que vous l'avez faite. »«
C'est vrai, reprit Claire d'une voix brisée. Mais au moins, étais-je en droit de compter sur le repos? Et je n'ai même pas pu l'obtenir. »
Elle se leva, et les mains crispées, gémissantes, égarées.
« Cette misérable femme qui me hait vient me poursuivre jusqu'ici, et vous le souffrez, et vous vous prêtez à ses manœuvres. Elle vous affiche, elle vous compromet. Et vous n'avez même pas pour moi assez de pitié pour m'épargner ces outrageantes bravades. Oh, mais je suis à bout de patience, cela ne peut durer plus longtemps, je ne le veux pas. »
« Vous ne le voulez pas ? » répéta Philippe. Et comme Claire redisait avec une obstination furieuse,
« Non, non, je ne le veux pas !»«
Vous oubliez, dit sévèrement le maître de forge, qu'ici, il n'y a que moi qui ai le droit de dire « je veux !» Tout le sang de la fière jeune femme lui monta au visage. Elle se révolta, et, aveuglée par la colère, emportée par la jalousie,
« Prenez garde ! » cria-t-elle, « ne me poussez pas à bout !» Je puis supporter votre indifférence, mais un dédain aussi insultant, un abandon aussi public, je ne m'y résoudrai jamais. »
Philippe s'arrêta devant elle et la regardant avec une railleuse curiosité.
« Comme c'est bien de vous, dit-il, comme vous êtes bien restée la même, toujours l'orgueil. Vous vous inquiétez de ce que votre entourage va penser. L'opinion publique, voilà ce dont vous vous préoccupez par-dessus tout. C'est pour faire bonne figure aux yeux du monde que vous vous êtes jetée comme une folle dans l'aventure de notre mariage. Et aujourd'hui encore, exaspérée à la pensée qu'on peut vous critiquer, vous railler, vous perdez toute mesure et vous vous oubliez jusqu'à me menacer.
« Oh non, je ne menace pas !» interrompit Claire, ne pouvant plus retenir ses larmes. « Je vous en supplie, ayez pitié de moi, Philippe, soyez généreux. « Ne serez-vous donc jamais là de frapper si durement sur mon cœur? Vous vous êtes bien vengé, allez! Vous pouvez être indulgent. Si vous ne voulez rien changer aux conditions de notre existence, au moins assurez ma tranquillité, délivrez-moi de la duchesse, éloignez de moi le duc. »
Elle avait prononcé ces derniers mots à voix basse, comme si elle avait honte de les laisser tomber de ses lèvres.
« De quoi vous plaignez-vous ? » reprit le maître de forge. « Je les supporte bien, moi, lui et elle. Ce sont vos parents. Que dirait le monde, ce monde à l'opinion duquel vous subordonnez tout, si, sans raison, nous leur fermions notre porte ? Il faut attendre patiemment et subir les nécessités de notre triste condition. La vie ne se modifie pas au gré du caprice d'une enfant gâtée. Tout y est grave et sérieux. Et le malheur ne vient que trop facilement, il n'est pas besoin d'aller au-devant de lui. » Vous le savez maintenant. Jetez l'un et l'autre, par vous, hors des chemins battus, notre devoir est de marcher en avant, puisque nous n'avons pas le droit de revenir en arrière.
Ainsi, dit Claire, je n'ai plus rien à attendre de vous, rien à espérer.
Rien, dit froidement Philippe, et souvenez-vous que c'est vous qui l'avez voulu ainsi.
Claire regarda son mari. Les traits du maître de forge étaient altérés. Ses yeux s'enfonçaient sur ses sourcils. Il était pâle, mais sa voix était ferme. Elle eut un instant la pensée de se jeter à ses pieds, de lui ouvrir son cœur, de lui avouer qu'elle l'aimait. Elle marcha vers lui, elle étendit les mains vaguement, la poitrine oppressée, étouffant. Mais un dernier reste de fierté l'arrêta. Elle poussa un profond soupir et resta immobile. Philippe vint à elle. « Je suis obligé d'aller à l'usine, » fit-il, calme comme si rien ne se fût passé entre lui et cette femme qu'il adorait. « Excusez-moi de vous quitter. »«
Que répondrai-je à mon frère ? » demanda timidement Claire.
« Dites-lui que je compte sur sa loyauté pour ne pas dire un seul mot de mon refus à Suzanne. Je m'arrangerai d'ici 8 jours pour éloigner momentanément cet enfant. »
Et passant comme une ombre dans le cabinet obscur, il fit à Claire un signe de tête plein d'indifférence et sortit. La jeune femme resta pendant quelques minutes seule dans la vaste pièce. Elle s'abandonna là à sa douleur sans contrainte. Renversée sur le divan, elle mesura toute l'étendue de son malheur. Ainsi, c'était irrévocable. Vainement, elle avait montré à Philippe la plaie saignante de son cœur. Il n'avait jeté sur elle qu'un regard distrait. Elle n'existait plus pour lui. Il le lui avait dit et il tenait sa promesse. Implacable, il ne voulait pas lui pardonner son égarement passager. Il la repoussait quand elle venait à lui. Elle s'accusa d'avoir perdu l'avenir de son frère. C'était par défiance de ce sang des Beaulieu dont elle lui avait prouvé la fatale violence que le maître de forge refusait Suzanne à Octave. Comment allait-elle lui apprendre cette désolante nouvelle ? La voix de Suzanne, résonnant dans la pièce voisine, la fit se dresser sur ses pieds avec la rapidité d'un chevreuil qui entend les aboiements de la meute. Elle redouta d'être surprise, pleurant seule dans le cabinet de son mari, et elle courut s'enfermer dans sa chambre. Elle donna ordre, à l'heure du déjeuner, de dire qu'elle était souffrante et ne descendrait pas. Puis, vers 2 heures, quand elle eut vu par la fenêtre Suzanne s'enfoncer dans les massifs ombreux du parc, elle gagna furtivement l'escalier et, sortant par la petite porte de la cour, elle partit à pied pour Beaulieu. Le marquis, impatient de connaître le résultat de la négociation engagée par sa sœur, faisait les 1000 pas sur la terrasse, se doutant bien que la jeune femme ne le laisserait pas longtemps dans le doute. De loin, il vit Claire qui montait le chemin assez raide qui conduit au château. Il fut douloureusement frappé de son attitude. Madame d'Herblay suivait lentement le talus gazonné de la route, le front penché, oubliant de s'abriter, quoique le soleil, perçant de temps en temps entre les nuages, fût très piquant. Son allure avait quelque chose d'alangui et de détendu qui annonçait la défaite. Elle ne venait pas triomphante et alerte comme une messagère de bonnes nouvelles. En un instant, le jeune homme arriva jusqu'à Claire. Ils échangèrent un regard, celui du frère, anxieux et troublé, celui de la sœur, morne et désespérée. « Mon Dieu, que s'est-il passé ?» murmura Octave en prenant Claire convulsivement par le bras et l'entraînant vers un rond-point entouré de bancs, duquel la vue était admirable. Une odeur exquise de tilleuls en fleurs venant jusqu'à Claire acheva de l'énerver et, tremblante, les yeux pleins de larmes, elle resta devant son frère sans prononcer une parole. « Voyons, Claire, par grâce, reprit le marquis, qu'y a-t-il ? Parle, tout vaut mieux que ton silence. » Madame d'Herblay eut pitié de l'anxiété de son frère et, faisant un pénible effort, « J'ai, mon pauvre ami, une triste réponse à faire à la demande dont tu m'avais chargé, dit-elle. Un mariage entre Suzanne et toi est impossible. » Octave recula d'un pas, comme si à ses pieds il eût vu s'ouvrir un gouffre. Il regarda sa sœur avec égarement, ne comprenant pas bien, et répéta « Est impossible ? Comment ?» Claire hocha la tête avec abattement. « Philippe a refusé, dit-elle. « Quelle raison ton mari a-t-il donné ? Demanda le marquis. Claire resta muette. Son embarras était extrême. Qu'allait-elle répondre à son frère ? Pouvait-elle lui révéler le secret de sa douloureuse existence ? Quel prétexte inventer pour donner au refus de Philippe une valeur acceptable ? Et il fallait répondre sans paraître hésiter. Octave la tenait sous son regard, cherchant la vérité sur le visage de sa sœur dans son moindre geste. « Il ne m'a point donné de motif, » balbutia Claire, rougissant de honte. « Il a refusé de s'expliquer. »« Sans motif, » dit le marquis, plein d'étonnement. « Sans explication, lui, Philippe, que j'aime tant, il n'a pas hésité à me faire un pareil chagrin. » Très ému, Octave s'essuya les yeux vivement et sa pensée active, poursuivant ce motif que Philippe n'avait pas voulu donner et qui lui échappait, il s'assit en silence, cherchant, désespéré. Brusquement, il poussa un cri. Une lueur venait d'illuminer son esprit. L'argent. Ce ne pouvait être que l'argent. Il était sans fortune et sans position. C'était là sûrement la raison pour laquelle Philippe lui refusait Suzanne. Il se leva vivement. Claire le regardait avec inquiétude. Le marquis fit quelques pas et, parlant tout haut, répondant à sa pensée sans s'en apercevoir, le front rayonnant de confiance et d'ardeur. « Sans position, c'est vrai, mais je m'en ferai une, dit-il. Sans fortune, et Philippe sait comment on s'enrichit. Je ferai comme lui. » Il s'arrêta stupéfait, presque épouvanté. Claire venait de se dresser, lui saisissant la main avec force. Un mot l'avait frappé, un seul, dans ce qu'avait dit son frère. sans fortune. Mais il avait suffi pour la jeter dans un trouble inexprimable. Et oubliant ses préoccupations, ses soucis, ses douleurs, de toutes les forces de son être, elle voulait qu'Octave le lui expliquât. « Sans fortune, toi ? » répéta-t-elle. Et, d'un geste impérieux, menaçant même, elle réclamait une réponse. Octave, embarrassé, confus, essaya de se détourner. Mais, avec une violence terrible, soupçonnant un mystère qu'il lui fallait à tout prix pénétrer, Claire le prit par l'épaule et, le dévorant des yeux, « Que voulais-tu dire ?»« Je viens de prononcer imprudemment, répondit Octave, des paroles que tu n'aurais jamais dû entendre. Tu ignorais la perte de ce procès. Tu devais l'ignorer toujours. Et moi, niais que je suis, j'ai trahi le secret que j'avais promis de garder. » Mais Claire n'écoutait plus le marquis. Elle pensait. Le procès perdu, c'était la ruine. Son frère sans fortune, elle était sans dot. Un doute horrible la saisit. Elle frémit, ses yeux s'agrandirent et se tournant vers Octave. « Quand je me suis mariée !» dit-elle seulement, achevant sa phrase par un geste. Le désastre était accompli. « Et mon mari, Philippe, le savait-il ? » ?»« Il le savait, et il avait défendu qu'on t'en parlât. Il ne voulait pas voir une ombre sur ton front. Il a été, en cette circonstance, d'une générosité et d'une délicatesse admirables. » Claire poussa un cri et battant l'air de ses bras, comme une folle, la voix entrecoupée. « Il a fait cela ! » cria-t-elle. « Et moi, moi ! Oh, malheureuse que je suis !» Dans une évocation subite, la chambre haute tapisserie, sur lesquelles les guerriers souriaient silencieusement aux déesses, lui apparut, telle qu'elle était le soir de son mariage, avec le grand feu qui brûlait dans la cheminée, à laquelle elle s'accoudait frémissante. Elle revit Philippe, pâle et tremblant, presque à ses pieds, puis relevant fièrement le front quand elle lui avait crié « Prenez ma fortune !» Sa fortune ! Comme il avait souri avec dédain ! Elle comprenait pourquoi maintenant. Et dans son désespoir, la vérité, si navrante et si humiliante, lui montait aux lèvres. Il fallait qu'elle parlât, qu'elle s'accusât. Hors d'elle-même, éprise d'un désir furieux de se frapper pour punir sa chair, ne pouvant châtier son âme. « Oh, j'ai menti !» balbutia-t-elle, « tout à l'heure, quand je t'ai dit que je ne savais pas pourquoi il t'a refusé sa sœur. C'est à cause de moi, créature indigne, qui cause le malheur de tout ce qui m'approche. » Et tout d'un élan, elle fit à son frère sa triste confession, n'atténuant rien, appuyant sur ses torts et montrant dans toute son horreur l'acte qu'elle avait commis. « Et lui, reprit-elle, si fier, si désintéressé, si bon, même dans sa colère, car il m'a épargné. D'un mot, il pouvait m'écraser. Il ne l'a pas fait. Et moi, je l'ai entendu me supplier, je l'ai vu pleurer et je suis restée insensible. Je n'ai pas compris tout ce qu'il y avait dans ce cœur d'amour sincère et profond. » Puis, transfigurée par la douleur, rayonnante de passion, « Mais si tu n'avais pas parlé, malheureux, ma vie était à jamais perdue. Qu'est-ce que je devenais ? Et c'est par hasard que tu m'as tout dit. Oh, béni sois-tu !» Elle prit son frère dans ses bras et l'embrassa avec une reconnaissance éperdue. Et les paroles, comme un flot trop longtemps contenu, débordaient de ses lèvres. « Claire, je t'en prie, calme-toi !» dit Octave, effrayé. « Ne crains rien, va, tout est sauvé maintenant !» reprit-elle, pleine d'exaltation. « Je réparerai le mal que j'ai fait, j'assurerai ton bonheur. Philippe, oh, je me mettrai à ses genoux, tout me sera facile et doux pour réussir. J'ai encore été aujourd'hui bien peu adroite avec lui. Mais je n'étais pas maîtresse de moi, vois-tu, je l'aime tant !» Un nuage passa sur son front. Le souvenir inquiétant de la duchesse lui revenait. Elle fronça les sourcils et sourdement « Oh, je ne veux pas qu'on me le prenne maintenant. Il faut qu'il revienne à moi ou je mourrai. » « Claire !» s'écria le marquis. Mais avec une mobilité extrême, elle était de la tristesse passée à la joie. Et le visage rasséréné « N'aie donc pas peur, reprit-elle en riant gaiement. Nous recevons demain, c'est ma fête. Tous nos amis seront là. Je veux être belle et lui plaire. Je triompherai, j'en suis sûre, et je le verrai de nouveau près de moi, confiant et tendre. Ses nerfs, qui seuls la soutenaient, soudain se détendirent. Elle chancela et vint tomber dans les bras d'Octave, qui la porta sur le banc de gazon. Des sanglots déchirants soulevèrent sa poitrine. Et pendant longtemps, elle resta accablée, écoutant, sans dire une parole, les affectueuses consolations de son frère. Quand elle eut repris possession d'elle-même, elle resta grave, assise près du marquis, regardant la vallée qui s'étendait devant elle, verdoyante et recueillie, traversée par la Vienne, qui courait dans les prés comme un ruban argenté. Le parc étendait jusqu'au pied des collines les sombres massifs de ces grands arbres que le château dominait de ses toits aigus. Les grandes cheminées de l'usine traînaient dans le ciel leur fumée lourde et le clocher de la petite église se dressait, surmonté de son coq qui brillait, frappé par les rayons obliques du soleil à son déclin. C'était dans ce coin tranquille que Claire rêvait de vivre. Elle se rappela qu'autrefois, elle l'avait, de cette même place, regardée avec dédain et colère. Maintenant, pour elle, il représentait le paradis. C'était là qu'était Philippe.